VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassé Koura et Jean-Roger Bion en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 13 mai 2016. Voyons ce qui fait l'actualité ce matin.
37 personnes mises aux arrêts au Mali pour leur implication présumée dans des affrontements intercommunautaires entre Bambara et Peul.
L'armée burkinabé souhaite réduire ses hommes dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies.
Le président français François Hollande arrive aujourd'hui en Centrafrique pour quelques heures à Bangui.
Au Niger, c'est la période de l'année où l'électricité fait le plus défaut.
Donc pas d'électricité, pas de travail. On ne se retrouve même pas finalement, on ne sait même pas s'il faut changer d'activité pour ne pas être lié à l'électricité. Peut-être être au grand marché pour vendre un produit qui n'a pas besoin d'électricité ou pas.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Oui, 37 personnes ont été mises aux arrêts au Mali pour leur implication présumée dans des affrontements intercommunautaires entre Bambara et Peul à Malemana, dans le centre du pays. On fait le point avec notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Ils sont au nombre de 37 personnes arrêtées dans la commune rurale de Kariri, cercle de Ténénkou, entre mercredi et jeudi. Ces personnes sont suspectées d'avoir participé directement ou indirectement dans les tueries survenues dans la zone suite aux affrontements entre Peul et Bambara. Ces auteurs présumés sont à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie pour des enquêtes préliminaires, nous signale le procureur de la République du tribunal de grande instance de Mopti, Bandjougou Fofana. Si les charges sont retenues contre ces personnes, elles seront déférées devant le parquet de Mopti. À titre de rappel, les affrontements qui ont eu lieu entre Bambara et Peul ont fait 24 morts et 5 blessés selon le bilan officiel. Pour l'instant, la situation est calme sur le terrain. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
L'armée burkinabé souhaite réduire le nombre de ses hommes dans les missions de paix de l'ONU. L'annonce a été faite hier par le chef d'état-major des armées, le général Pingrumna Zagré. Il s'exprimait lors de la visite du président du Faso dans un camp militaire dans la banlieue de Ouagadougou où se déroulent des manœuvres militaires internationales. Des manœuvres qui regroupent environ 300 militaires pour une formation dans la lutte contre le terrorisme. Zoumana Wonogo est notre correspondant à Ouagadougou.
La première participation du Burkina Faso à une opération de soutien à la paix remonte à l'année 1993. Cela fait donc 23 ans aujourd'hui que l'armée burkinabé est engagée dans les théâtres d'opérations en Afrique et même à Haïti. Seulement voilà, le pays qui semblait être épargné est devenu lui-même la cible des terroristes. On a toujours en mémoire l'attaque de l'hôtel Splendide et du bar-restaurant Le Cappuccino à Ouagadougou, l'attaque de la gendarmerie du Samourougan à l'ouest burkina. Face donc à cette situation, la hiérarchie militaire estime que le feu étant dans la maison, il faut mobiliser tous les efforts pour l'endiguer. Voilà pourquoi le chef d'état-major général des armées, le général Pingrumna Zagré, a laissé entendre que le Burkina souhaite retirer ses hommes dans les opérations de maintien de la paix. Le Burkina a 3 bataillons au Darfour et au Mali et chaque bataillon compte 850 hommes. La question était de savoir, faut-il se retirer du Mali ou du Darfour? La distance semble plaider pour le Mali voisin, mais il faut le retenir. On ne se retire pas facilement d'une mission de paix onusienne. Il y a beaucoup de démarches à faire. Sinon, on s'expose à des sanctions, nous a confié un haut gradé. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, au moins 2 personnes ont été tuées jeudi dans une explosion devant un bâtiment officiel à Maiduguri. C'est la plus grande ville du nord-est de ce pays. L'information est du porte-parole d'un hôpital local cité par l'agence France-Presse. Selon des marchands qui se trouvaient devant le siège du gouvernement régional, l'explosion provenait d'un triporteur.
Le président français François Hollande arrive aujourd'hui en Centrafrique pour quelques heures à Bangui. La France prépare le retrait de la force angariste de RCA. Elle entend ensuite soutenir la reconstruction du pays.
Un vaste coup de filet antiterroriste en Tunisie a permis l'arrestation de 37 personnes, dont certaines sont liées au groupe État islamique et aux attaques ayant ensanglanté le pays. C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce jeudi soir le ministère de l'Intérieur.
En Somalie, les forces spéciales ont participé à un affrontement entre forces de l'Union africaine et les Chebabs. Selon le Pentagone, une frappe aérienne a été lancée sur les djihadistes somaliens. Mélisse Hegel.
Les soldats américains accompagnaient une offensive des troupes ougandaises de l'Amisom contre un barrage routier des Chebab à l'ouest de Mogadiscio. La frappe a été menée par un drone, selon le porte-parole du Pentagone. 5 combattants Chebab ont été tués. Du côté américain et des troupes ougandaises, aucune perte humaine ou blessure n'a été rapportée. Une cinquantaine de soldats américains sont en Somalie pour soutenir la lutte contre les Chebab. Il s'agit pour l'essentiel de forces spéciales formées à la lutte antiterroriste qui conseillent les troupes somaliennes et l'AMISOM et mettent à leur disposition des moyens comme des hélicoptères. Les Chebab ont indiqué cette semaine avoir repoussé une attaque des forces spéciales américaines dans la ville de Toratoro, au sud de Mogadiscio. Début mars, le Pentagone a affirmé avoir tué près de 150 militants dans un bombardement au nord de Mogadiscio.
Voilà, le gouvernement américain est prêt à assouplir l'embargo des Nations Unies sur les armes en Libye. Les États-Unis souhaitent ainsi aider le gouvernement d'union du pays à lutter contre le groupe État islamique, d'après des responsables et des diplomates américains dont les propos sont rapportés par l'agence France-Presse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Michel Temer assume depuis hier la présidence du Brésil après un vote historique du Sénat qui a suspendu du pouvoir la présidente de gauche Dilma Rousseff, ex-alliée devenue rivale de la présidente élue. Le vice-président de centre droit Temer, âgé de 75 ans, s'est installé au palais de Planalto, tout sourit, comme au soir d'une élection triomphale entouré de 24 ministres, tous des hommes de son gouvernement de redressement économique de contour libéral. S'adressant à la nation, il a tenu des paroles d'apaisement. Rapporte l'AFP, il a demandé aussi aux Brésiliens de lui accorder leur confiance, ajoutant qu'il était urgent de pacifier la nation et d'unifier le pays.
Le Venezuela serait-il sur les traces du Brésil? Pas vraiment. Là-bas, la prochaine étape du processus vers un référendum pour révoquer le président Nicolas Maduro ne commencera pas avant le 2 juin. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier l'autorité électorale aux grandes dames de l'opposition qui souhaite hâter le calendrier. Et pour arriver jusqu'au référendum, l'opposition devra ensuite réunir 4 millions de signatures en 3 jours. Puis lors du référendum, à proprement parler, elle devra obtenir plus de voix que Nicolas Maduro.
La question des brutalités policières aux États-Unis a refait surface hier avec l'ouverture d'un procès emblématique à Baltimore, plus d'un an après la mort de Freddie Gray, un jeune noir peu après son interpellation par la police. Les détails, John Lydon.
Édouard Nero, l'un des 6 policiers jugés séparément à Baltimore, est accusé d'avoir concouru à un homicide, mais lui parle d'accident. Freddie Gray s'est retrouvé le 12 avril 2015 avec une fracture des vertèbres cervicales pendant son transport dans un fourgon de police. Comparaissant libre, M. Nero et ses avocats ne sont autorisés à parler à la presse. Le policier est accusé de violence volontaire, mise en danger de la vie d'autrui et faute professionnelle. Un premier agent parmi les 6 a déjà été jugé en décembre, mais son procès s'était conclu sur une annulation surprise. Les jurés n'avaient pas réussi à s'accorder sur un verdict et il sera rejugé. Les policiers poursuivis, 3 blancs et 3 noirs, dont une femme, plaident la thèse de l'accident. Plus d'un an après la mort de Freddie Gray, personne n'a encore été condamné et le flou demeure sur ce qui s'est vraiment passé dans ce fourgon de la police.
John Lindon, le Secret Service américain chargé notamment de la protection du président et des personnalités, a indiqué jeudi qu'il était au courant des propos d'un ancien majordome de Donald Trump parlant sur Facebook de tuer Barack Obama et mènerait une enquête. Les propos d'Anthony Seneca, âgé de 84 ans, qui a été pendant 17 ans le majordome de Donald Trump avant de devenir en 2009 l'historien attitré de son domaine de Mar-a-Lago en Floride, ont été rendus publics par le magazine Mother Jones qui a eu accès à ses messages sur Facebook.
Et ces révélations accablantes ce matin, tenez-vous bien, selon l'ONG britannique Oxfam, les employés du secteur volailler aux États-Unis travaillent dans un tel climat de peur qu'ils n'osent même pas demander de pause pour aller aux toilettes et portent des couches au travail.
D'après l'étude publiée mardi, la grande majorité des 250 000 ouvriers du secteur agricole américain dit ne pas bénéficier de pause toilette adéquate. En clair, une violation des lois américaines de sécurité au travail.
Et puis l'américain Tyson Foods, l'un des plus gros groupes volailles au monde, a répondu dans un communiqué ne pas tolérer le refus des demandes d'aller aux toilettes dans ses usines.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Anastasie Toudies.
Le Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde, devrait rebondir à 5,2% en 2016, après un fort repli à 3,5% en 2015, dû à des baisses de production agricole, pétrolières et minières. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le FMI, après une mission du 25 avril au 9 mai à Niamey. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a réalisé au terme de l'exercice 2015 un bénéfice de 49,440 milliards de francs CFA, a appris aujourd'hui l'agence APA auprès de cet institut d'émission à Dakar. Ce résultat s'établissait à 31,278 milliards de francs CFA en 2014, soit une forte progression de 58%. Pour réussir sa révolution numérique, l'Afrique doit d'abord améliorer l'accès de sa population à l'électricité, ont jugé des participants du Davos pour l'Afrique, forum économique, qui se déroule depuis mercredi à Kigali, au Rwanda. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, ont rappelé certains participants à ce 26e forum économique mondial pour l'Afrique. Environ 32 millions de personnes sont en état d'insécurité alimentaire en Afrique australe en raison de la grave sécheresse qui frappe la région depuis près de 2 ans, a indiqué aujourd'hui le Programme alimentaire mondial. Selon le PAM, les niveaux des réservoirs sont plus bas que l'an dernier à la même période. Et comme beaucoup de pays dépendent de l'eau pour leur production d'électricité, il faut s'attendre à des coupures de courant et à des pénuries d'eau.
Allez, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour John Lindon.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football hein, au Cameroun. Le stade Omnisport de Bafoussam reçoit l'onction de la CAF.
Une annonce qui intervient après la visite effectuée du 27 avril au 1er mai dernier par l'émissaire de la CAF, Souleymane Magasouba. Écoutons la réaction d'Emmanuel Nzété, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam.
C'est un bel ensemble architectural conçu et réalisé selon les règles de l'art pour développer le sport dans la ville de Bafoussam et pour nous permettre de bâtir certaines infrastructures.
Euro 2016, la France a publié la liste de ses joueurs.
Pas de surprise et pas de Ben Arfa. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé hier une liste des 23 très classiques pour l'Euro 2016, se passant des services de l'attaquant niçois qui devra se contenter d'une place parmi les 8 réservistes. En clair, 22 des 23 joueurs convoqués lors du dernier rassemblement participeront donc au tournoi.
Voilà, cyclisme à présent, l'Ivoirien comptait encore sur la deuxième étape du Tour du Bénin 2016.
Oui, la deuxième étape du Tour du Bénin couru entre Dassa et Boïkon a vu une fois encore Bachirou compter s'imposer. On fait le point avec Élisée Hung Pating qui suit ce tournoi sur place pour VO Afrique.
C'est encore au sprint que l'Ivoirien a remporté cette deuxième étape longue de 80 km entre Dassa et Boïkon. Une victoire à l'arraché pour Bachirou qui devance de justesse le Belge Bart Tribot. Il conserve par ailleurs son maillot jaune. Le Burkinabé Amidou Yameogo complète le podium. Bachirou Konté, content de cette victoire, se dit proche de l'objectif.
On a fait ce qu'on pouvait. C'est une satisfaction pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.
Prochaine étape, la troisième d'ailleurs entre Boïkon et Ouida ce vendredi. D'une descente de 115 km en attendant les deux critériums. Élisée Hungpati, Boïkon, VOA Africa.
Et on termine par un mot de NBA avec vous, Bagassi.
Oui, San Antonio a été éliminé à la surprise générale en demi-finale de la conférence Ouest des playoffs par Oklahoma City. Les Spurs qui ont réalisé la meilleure saison régulière de leur histoire avec 67 victoires et 15 défaites ont sombré 113 à 99 sur le parquet du Thunder dans le match numéro 6 entre les deux équipes. Ils se sont inclinés 4 victoires à 2 face à OKC. OKC qui défiera en finale de conférence la dernière étape avant la finale NBA. Le champion en titre et grand favori, Golden State. Merci John.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, il est 3h15 ici à Washington, 7h15 en temps universel et 8h15 à N'Djamena au Tchad. Bagassi Koura de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. Au Brésil, Dilma Rousseff est suspendue temporairement de la présidence après le vote historique du Sénat hier. Les sénateurs se donnent un maximum de 6 mois pour se prononcer définitivement sur son cas. Le vice-président Michel Temer assure l'intérim. Pour autant, le Brésil reste profondément divisé. Idriss Fall a recueilli la réaction de Ismaël Fagundes. C'est un noir brésilien.
C'est un coup d'État parce que le gouvernement de Dilma, c'est un gouvernement social. Ça, c'est un problème pour l'élite brésilienne parce que le gouvernement de Dilma a avancé beaucoup de programmes sociaux. C'est un problème pour l'élite brésilienne. Elle ne supportait pas que les personnes avancent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment des personnes pauvres qui avaient l'opportunité d'entrer à l'université, trouver du travail, d'avoir une maison et d'un bon salaire. Et ça, c'est un problème.
Et pourquoi c'est un problème? Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on l'accuse de corruption, on dit qu'elle a cassé des choses dans les fonds publics.
Alors, la corruption dans le Brésil, elle existe à longtemps. Ce n'est pas le gouvernement de Dilma qui a créé la corruption. La corruption, elle existe au Brésil à 30 ans, à 50 ans, à 100 ans. En elle existe la corruption du Brésil. Mais le gouvernement de Dilma, c'est un gouvernement ouvert. Il avait la chance d'y vérifier, mais la corruption, elle n'existe pas sans le gouvernement Lula. Le gouvernement de Fernando Henrique Dilma. Le gouvernement de Fernando Henrique, il avait la corruption, mais le gouvernement de Lula et Dilma qui a commencé à vérifier, qui est ouvert, et ouvert l'abertude pour la justice, vérifier la question de la corruption.
Donc vous pensez que c'est le retour de la droite brésilienne, alors?
Bien sûr. Moi, j'espère que se passe, que Dilma elle passe ce moment tranquillement et qu'elle trouve son poste. Mais on avait peur que la droite brésilienne, que l'élite brésilienne, plus fort, parce qu'ils vont couper toutes les avances sociales, l'avance de la médecine, les Cubains qui viennent travailler, qui travaillent au Brésil, ils vont couper ça, les universités, la cote pour les Noirs, toutes les choses qui sont sociales, ils vont couper, ils vont bloquer ça.
Et que pensez-vous de Cunha qui dirige le Parlement?
Cunha, il avait 5, il y a 5 preuves qui ont montré qu'il avait des comptes à les banques à l'étranger, qu'il gagnait de l'argent sous la Pelé, à Rio de Janeiro, et c'est une personne qui avançait les projets de impeachment à Dilma, mais qui a fait beaucoup de corruption. Ce n'est pas possible qu'une personne comme lui s'occupe d'un projet de impeachment pour le président s'il avait beaucoup de problèmes avec la corruption. La politique du Brésil, elle vit un moment triste. C'est un match de foot. Il y a deux matchs, deux teams. Il y a le team de la droite, il y a le team de la gauche, il y a le team d'élite, il y a le team de preuve. C'est triste la politique brésilienne. Il n'y a pas la démocratie. La présidente Dilma, elle a gagné avec la démocratie et elle va perdre son poste, les coupes d'État.
Voilà, c'était Ismaël Fagundes, un noir brésilien joint à Rio de Janeiro.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Oui, c'est la période de forte chaleur au Niger. Les besoins en électricité sont donc aussi forts, mais ils ne sont pas satisfaits puisque chaque année, à cette période, la fourniture en énergie électrique manque. Les coupures sont fréquentes et durent parfois toute la journée. Un véritable calvaire pour les populations, comme nous allons le voir avec ce reportage de notre correspondant Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Situation difficile pour les habitants de la capitale nigérienne qui, en plus de la canicule, le thermomètre affiche parfois 45 degrés à l'ombre, doivent faire avec les incessantes coupures de la fourniture en électricité, dures surtout pour ceux dont les activités sont conditionnées par l'énergie électrique.
Là, depuis ce matin, on n'a pas d'électricité. Nous sommes en train de croiser les bras.
Les clients sont là en train de nous engueuler. Comme quand on les a donné un faux rendez-vous, quand bien même, ils doivent même savoir que nos activités sont liées à l'électricité. Donc pas d'électricité, pas de travail.
on ne se retrouve même pas finalement. On ne sait même pas s'il faut changer d'activité pour ne pas être lié à l'électricité. Peut-être être au grand marché pour vendre un produit qui n'a pas besoin d'électricité ou pas.
On a vraiment un décroyé. Vous voyez comment vous avez trouvé les ouvriers. Tout le monde est assis comme s'il n'y a pas le boulot. Oh, il y a le boulot, c'est à cause de l'électricité qu'on est là.
À chaque fois, il y a des coupures, à chaque fois, il y a des coupures. Les gens en ont marre.
Et c'est vraiment une perte de l'économie donc, du pays. C'est une perte de l'économie des foyers.
Les coupures d'électricité bloquent les études dans les facultés à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey.
Ces coupures empêchent aux étudiants de réviser comme ils le souhaitent. Alors que nous sommes dans des périodes d'examen, dans un amphithéâtre, quand il n'y a pas un micro, les étudiants ne peuvent même pas entendre ce que l'enseignant dit. C'est ce à quoi nous assistons. Au niveau de nos laboratoires également pour les recherches.
Les tenants des officines pharmaceutiques sont aussi inquiets.
Notre souci, c'est nos centrales d'achat, c'est-à-dire là où le gros du stock de médicaments est conservé.
Pourtant, le directeur général de la société d'électricité avertit, cette année, ça va être un peu plus compliqué.
Cette année, il faut s'attendre à une situation un peu difficile, puisque au Nigeria, qui est notre principale source d'approvisionnement, compte tenu de la saison sèche, la production a chuté, passant de 6000 MW à peine 2000 MW. Et donc ils rationnent, ils ont diminué la quantité qu'ils donnent à chaque pays. Nous, des fois, nous donnons 20 MW sur 70. Des fois, ça monte jusqu'à 40 MW. Et donc, nous ajoutons nos machines qui peuvent produire 55 à 60 MW. Et nous avons averti la population que nous serons amenés à faire un peu de rationnement.
Pour faire face, certains se retournent vers les groupes électrogènes ou vers les panneaux solaires. Ils sont toutefois peu nombreux au vu du coût très élevé de ces deux alternatives. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Voilà, direction le Sénégal, Cross Dakar City. C'est une application mobile lancée l'année dernière au Sénégal pour dénoncer la situation des enfants mendiants issus surtout des milieux ruraux et confiés à des écoles coraniques. Le héros de l'application, Mamadou, est un petit garçon qui a décidé de rompre les chaînes de la mendicité et de retrouver ses parents. Mais il doit d'abord traverser les rues de Dakar en évitant de se faire écraser par les voitures, en montant sur des pirogues, en esquivant les cars rapides. Et plus on avance dans le jeu, moins la circulation est fluide. Comment cette application est-elle perçue par les Sénégalais? Eric Manirakiza a joint à Dakar Sokhna Natambay, notre correspondante sur place.
Il n'y a pas vraiment de changement, puisque le problème des enfants talibés, il faut le savoir, ça a commencé des dizaines d'années. Alors, il ne va pas suffire d'une simple application pour changer tout cela. C'est vrai, les Sénégalais ont adhéré à Cross Dakar City. Beaucoup de Sénégalais ont téléchargé l'application, puisque 70% même des téléchargements ici au Sénégal ont été faits ici au Sénégal. Mais cette application n'a pas changé grand-chose, parce que c'est dans la mentalité des Sénégalais et également c'est ancré dans le vécu des Sénégalais. Donc, ce sera très difficile de changer cela. Les enfants talibés sont toujours là et les chiffres qu'on leur publie chaque année sont aussi alarmants qu'au début.
Est-ce qu'ils savent déjà l'utiliser ou c'est un problème d'impact malgré l'adhésion massive des utilisateurs?
Il y a des gens qui l'utilisent certainement, mais on préfère surtout les applications qui sont issues de l'étranger. Si on regarde le top des téléchargements concernant les jeux, Cross Dakar City, c'est un jeu avant tout, avant d'être une application pour sensibiliser les populations sur le phénomène des talibés, c'est aussi un jeu. Alors les jeux qui sont les plus téléchargés ici au Sénégal, ce sont les jeux qui viennent de l'extérieur. Je veux parler des Candy Crush, ce sont les jeux surtout qui sont développés par King et les autres jeux, les jeux de course, etc. Donc je pense que vous avez parlé du mot, c'est l'impact, ça reste. Les Sénégalais jouent à Cross Dakar City, mais sans plus. Donc ils testent à un moment donné pour voir, parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est la curiosité également, parce qu'ils entendent parler d'une application qui est 100% sénégalaise. Alors il faut la tester, voir comment c'est. Des personnes ont commencé à l'utiliser, mais c'était, je pense, les premiers mois. Voilà, maintenant sans plus, je crois bien.
Y a-t-il eu une sensibilisation nécessaire?
Si, parce que que le concepteur du jeu même, Ousseynou Khadim Bey, a fait le tour des médias ou bien de certains médias ici au Sénégal. Il a parlé du jeu, il a essayé de sensibiliser la population sénégalaise sur l'importance de ce jeu, sur l'importance également de la prise en charge du problème des talibés. Mais voilà, jusqu'à présent, l'objectif qui était visé n'a pas encore été atteint, disons, à 100%, même pas à la moitié, disons, parce que les Sénégalais ont vu que c'était une nouvelle façon de lutter contre ce phénomène. Mais voilà, jusqu'à présent, le phénomène persiste et tout.
Voilà notre correspondante à Dakar, Sokhna Nathan Mbaye.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Voilà, on termine par la musique, ou plutôt la plusique. Au Mali, un nouveau concept appelé la plusique, un mélange de poésie avec des mélodies musicales, fait son entrée sur scène. Une poétesse et romancière malienne fait franchir le pont entre la poésie rimée et la musique rythmée. Elle se produira samedi au centre Kadiatou Thiam à Faladier, c'est un quartier de Bamako. Eh bien, Modibo Dambélé a joint la poétesse de type nouveau. Elle s'appelle Niaré Fatoumata Keïta.
La musique, par définition, c'est plume plus musique. Ça veut dire que nous avons pensé que de tous les genres littéraires, c'est de la poésie qui se lit le moins. Et nous avons écrit des poèmes et on a envie que ces poèmes soient ventilés, véhiculés. Parce qu'on les a pas écrits pour qu'ils restent dans les tiroirs. On a donc jugé nécessaire, dans un pays où on dit pays à tradition orale, de mettre les poèmes, les lire sur fond musical, soit mandingue ou bambara, ça peut être sur tout autre son. Et on les met sur les CD pour qu'on puisse les écouter partout où on le veut. Ça, la musique. Plume plus musique.
Quel peut être l'intérêt d'un tel style?
C'est une alternative à la problématique de la lecture. Un, de deux, ça va permettre aux écrivains qui écrivent des poèmes d'avoir une autre alternative d'édition. Et de trois, je pense que dans un pays à tradition orale où aujourd'hui il y a beaucoup plus de bruit autour de la musique et de la danse, si nous trouvons des initiatives qui puissent être à mesure de concilier musique et poésie, je pense que ça peut trouver un auditoire.
Quels sont les perspectives d'avenir?
D'abord, c'est le lancement du coffret que nous venons de réaliser en collaboration avec Dintili Communication. Ce lancement est prévu pour le 14 mai à 17h au centre Kadiatou Thiam. Le centre Kadiatou Thiam se trouve à Faladier, contribue à la cour de la douane. Et l'entrée est gratuite et nous allons faire une petite conférence de presse avec une table ronde pour expliquer à la presse ce que c'est que la musique. Ensuite, on va faire des déclamations de poésie en forme de musique pour que le public découvre ce que nous faisons.
Je suis un voyageur assoiffé d'amour et de bonheur. Je suis parti de rien et je n'ai pas peur de demain.
Voilà, je n'ai pas peur de demain. C'est Madame Niaré Fatoumata Keïta, poétesse et romancière à Bamako, où vous pouvez nous suivre en 102 FM 24 heures sur 24.
Mes meilleurs souhaits à toi, mon frère, mon âme sœur, sur qui se pose mon regard rêveur. À la croisée des chemins, chacun promène sa puanteur. Les bons temps s'envolent sur les ailes.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci d'être resté fidèle à cette édition qui prend fin donc. La présentation était assurée par moi-même, Bagassi Koura et Jean-Roger Bion, production Lionel Gaïma. Et ainsi va le monde aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On maintient la conversation et c'est sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos. C'est 24h sur 24. Passez un excellent week-end à l'écoute de la Voix de l'Amérique.